Ceci est un podcast à date.
Bienvenue dans le podcast à date. Je suis Mariana Reis du département des finances publiques du Fonds monétaire international. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons discuter avec M. José Andrés Romero, directeur général de la Direction des impôts et des douanes de Colombie, également connu sous le nom de DIAN. Il nous parlera des transformations récentes qu'a connues l'institution et de son expérience de première évaluation TADAT 100% virtuelle menée par le département de finances publiques du Fonds monétaire international et qui comptait sur la participation de plusieurs organisations internationales. Bienvenue.
J'aimerais vous saluer, vous et toute l'équipe du Fonds monétaire international. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous et de partager notre expérience.
Nous savons qu'au cours des deux dernières années, la DIAN de Colombie a procédé à des réformes au sein de son organisation. Quels ont été les piliers stratégiques sur lesquels la gestion de l'entité a été fondée au cours des deux dernières années ?
Eh bien, tout d'abord, Mariana, il faut dire que lorsque vous menez un processus de gestion du changement au sein d'une organisation, et pas seulement au sein de l'Administration nationale des impôts et des douanes, vous devez sans aucun doute établir un processus pour vous assurer que la gestion du changement peut vraiment avoir lieu. Alors, qu'avons-nous fait ? Tout d'abord, nous avons fait un diagnostic. Nous avons clairement défini le problème. Après ce diagnostic, nous avons commencé par la base, les personnes au sein de l'entité, mais nous avons aussi analysé les différents secteurs des différents acteurs de la DIAN, aussi bien les contribuables que les fonctionnaires, et les entités publiques aussi, pour voir ce qu'il était possible de faire. Normalement, toutes ces analyses sont disponibles. Ensuite, nous avons élaboré un plan de travail détaillé pour gérer le changement et la planification stratégique de l'entité. Un calendrier détaillé. Et nous nous sommes déplacés, étape par étape, vers les tâches ou les activités, puis vers les stratégies. Nous avons commencé à mettre en œuvre ces stratégies, puis nous avons fait une évaluation, ce qui est tout à fait normal quand on fait un processus complet de gestion du changement. Puis, à partir de ce que nous avons établi, nous avons réévalué la mission et la vision de l'entité. À partir de là, nous avons commencé à passer d'une entité qui est normalement en charge de la gestion du civisme fiscal et du recouvrement des impôts et des obligations fiscales à une entité qui est désormais consacrée à faciliter et à garantir la compréhension et la simplification du civisme fiscal. Donc, vous voyez à quel point ce changement de mission est important et aussi ce changement de vision. Ce que nous voulons en tant qu'entité qui opère beaucoup de transformations et gère les changements, c'est d'être reconnue comme une organisation novatrice et une référence pour l'État et aussi pour la région en termes d'administration fiscale. Une entité comme la DIAN, qui administre non seulement les impôts, mais aussi les douanes, doit devenir une entité de technologie de pointe. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est pourquoi nous avons établi quatre objectifs stratégiques. Le premier, c'est la transformation des ressources humaines, parce que c'est la base. La gestion du changement se construit avec les gens, les ressources humaines, le changement et le travail des personnes. Cela doit être la base de toute gestion du changement. Nous avons ensuite parlé de transformation technologique, qui est tout le processus de modernisation que nous avons soutenu financièrement au sein de la DIAN. Le processus de modernisation est autofinancé et c'est le principal projet d'investissement que le pays peut mettre en œuvre. Le troisième pilier, c'est être proche des citoyens. Ça, c'est fondamental. Ce changement de culture, ce changement de mentalité fait partie de la mission de l'entité. La fonction de la DIAN n'est plus d'être autoritaire, d'imposer des charges, mais plutôt de faciliter, d'être proche des citoyens et de fournir un service. Et enfin, la stratégie de la légitimité et de la durabilité qui est d'améliorer l'efficacité, la gestion, la lutte contre l'évasion fiscale et la contrebande, et d'obtenir de meilleures recettes fiscales pour une plus grande viabilité des finances publiques du pays, mais de façon efficace.
Je vous remercie de nous avoir expliqué les détails du processus de modernisation en cours au sein de la DIAN. Vous comptez sur le financement de la Banque internationale de développement. Alors, comment prévoyez-vous d'utiliser ces fonds ?
Oui, en effet, cela a été un véritable processus. Lorsque vous regardez tout ce qui compose la Diane, la composante principale, vraiment la composante la plus importante, celle qui représente 77,1%, c'est le problème de la technologie. En ce qui concerne la transformation de la composante humaine, au niveau de la préparation des appels d'offres, nous avons commencé à avancer au cours de ces 2 années et demie. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun intérêt à commencer à investir dans la technologie si vous n'avez pas les ressources humaines appropriées. Et dans ce contexte, les investissements de la Diane se concentrent principalement dans les domaines de la technologie, les infrastructures et l'amélioration du contrôle fiscal et douanier et du civisme fiscal.
Très intéressant ce qui attend la Direction nationale des impôts et des douanes. L'un des objectifs est la transformation des talents de l'entité. Quel travail a été accompli et quels sont les résultats de la transformation et de la professionnalisation des talents ?
Eh bien, les progrès ont été très importants dans le domaine de la transformation des ressources humaines, qui est le premier pilier. Par exemple, le plan de carrière. Nous avons fait un plan de carrière adapté et justifié seulement pour la Diane. Il s'agit d'un plan de carrière où la performance personnelle est établie et récompensée. La performance de groupe, évidemment, mais aussi les performances personnelles afin que les personnes qui ont de meilleures performances aient de plus grandes opportunités de se développer au sein des postes de direction, dans la coordination des groupes, etc. Et c'est quelque chose donc de très important. De plus, l'évaluation est faite ici avec des paramètres objectifs, des paramètres de qualification, parce qu'ils sont totalement réglementés, de sorte que, en fait, ils peuvent identifier qui sont les personnes exceptionnelles et qui sont celles qui ont besoin d'un plus grand soutien pour renforcer leur carrière. De plus, nous avons recruté 2000 nouveaux employés. À la Diane, nous avons constaté que 40% de la masse salariale était proche de la retraite. Cela signifie que dans quelques années, ils allaient quitter l'entité. Donc il nous fallait mettre du sang neuf dans l'institution et bien les sélectionner par méritocratie. Les plus qualifiés des universités, les meilleurs profils, les meilleures qualifications et les meilleurs professionnels pour avoir vraiment une base de croissance technologique au sein de l'entité. Et cela a beaucoup contribué à générer une gestion du changement. Notre personnel passe un diplôme de l'Universidad Javeriana de Transformación Ética. Nous avons déjà 1500 fonctionnaires de la Diane qui ont le diplôme de transformation de l'être humain, particulièrement du point de vue éthique. Ce que nous devons faire, c'est améliorer la Diane. En fait, les bons sont plus nombreux, mais les bons ne doivent pas être passifs. Les bons doivent se rendre compte que l'éthique, la transparence et la lutte contre la corruption est quelque chose qui les concerne. Et en tant que membre de la direction de l'entité, nous devons être en mesure de diffuser cette approche à nos équipes de travail. Pour l'instant, il y a 1500 diplômés. L'idée est d'arriver à 3000 et qu'ils puissent à leur tour reproduire ce concept de transparence éthique, de leadership au sein de l'entité. De plus, nous avons été évalués par Great Place to Work sur les plans de carrière et nous avons obtenu une note très satisfaisante. Cela signifie que les ressources humaines sont maintenant prêtes à la transformation pour croître. De sorte que maintenant, lorsque nous investissons les 250 millions de dollars dans la technologie, les gens seront ouverts et disposés à s'engager dans cette grande évolution technologique au sein de l'entité.
En nous concentrant davantage sur le problème technologique, comment s'est passée votre expérience du Cloud First ?
C'est une question très importante et je voudrais répondre en deux temps. La première chose est que nous avions déjà une stratégie numérique et c'était la principale garantie que nous allions vraiment opérer une transformation technologique. Tout d'abord, si nous n'avions pas de stratégie numérique, nous n'aurions aucune marche à suivre. Au sujet du Cloud First, nous avons d'abord réalisé un projet pilote qui, je pense, montre que cet investissement de 250 millions fonctionnerait. Il s'agit d'un pilote de facturation électronique. Alors, qu'avons-nous fait ? Un appel d'offres international nous a montré qui avait l'expérience de la facturation électronique et nous avons engagé le fournisseur qui avait le plus d'expérience en facturation électronique. C'est ce que nous avons fait. Le marché a été attribué en novembre 2018, Nous avons commencé à travailler en décembre 2018, en janvier et en février 2019. En mars 2019, nous avions déjà approuvé les premiers pilotes. En mars, avril et mai, nous avons travaillé sur les tests. En mai et juillet, nous avons lancé la première application pilote. Et en juillet, nous avons lancé la facturation électronique. Car cela était une décision importante qui a fonctionné dès le début avec le cloud, 100% avec le cloud. Cette expérience nous a permis en un an, parce que nous avons terminé en juillet, un an, plus août, septembre, octobre, novembre, 4 mois de plus. Donc un an et 4 mois pour couvrir 93% de l'ensemble de l'économie. 93% de l'ensemble de l'économie. C'est-à-dire 420 000 entreprises qui utilisent déjà la facturation électronique et 80 000 qui sont sur le point de le faire. Nous allons atteindre le chiffre de 500 000 entreprises, ce qui représente pratiquement toutes les entreprises du pays. En parallèle, nous avançons aussi sur l'analyse de la facturation électronique. Grâce au programme d'analyse et aux résultats liés à la facturation électronique, des résultats concernant la lutte contre l'évasion fiscale et la contrebande sont déjà visibles. En effet, nous avons commencé à utiliser la facturation électronique en parallèle avec la production de données analytiques et de big data. Et regardez ce que nous avons démontré depuis un tout petit laboratoire, que premièrement, qu'il était possible de mettre en place une modernisation technologique. Deuxièmement, que nous devions utiliser des clouds, parce que ceux-ci nous donnent des avantages concurrentiels, notamment dans le domaine de la gestion analytique, ainsi qu'une capacité illimitée en termes de gestion des données. Troisièmement, que d'une manière ou d'une autre, le processus de facturation électronique allait imprégner toute l'organisation et l'intelligence artificielle, et qu'il a un lien direct avec le recouvrement.
Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience de la facturation électronique. En pleine crise de Covid-19, quelle a été la stratégie de la DIAN pour faire face à la situation en Colombie?
Je dirais que la stratégie tourne autour de deux piliers. Le premier est d'être très clair sur le fait que si toutes les entreprises font faillite, il n'y aura plus personne pour payer des impôts. Ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe, qui est également très important, est qu'il est fondamental de s'occuper de la culture du paiement des Colombiens. Sur ce thème, nous avons pris une série de mesures destinées à améliorer la liquidité des entreprises. Par exemple, les PME et les entreprises les plus touchées par la crise n'étaient plus obligées de payer des avances de loyer, même les entreprises qui facturaient plus. Et cela jusqu'à ce qu'elles n'aient plus besoin de ce type d'aide. En plus, nous avons créé des déclarations simplifiées pour ces entreprises. Nous avons mis en place des remboursements, des systèmes de paiement rapides. Ce qui veut dire que nous avons demandé aux gens d'écouter, de présenter leur relevé, et nous avons conclu des accords de paiement afin qu'avec les intérêts bancaires, ils puissent payer leurs impôts les mois suivants en 12 versements, sans affecter la liquidité de leurs entreprises. De plus, nous avons effectué le remboursement de la TVA pour les secteurs 1, 2 et 3. Les personnes les plus pauvres de Colombie se sont vues rembourser la totalité de leur TVA. Nous avons par exemple étendu les conditions de paiement à toutes les PME, afin qu'au lieu de payer leurs impôts en avril, elles puissent les payer en décembre, de manière à laisser le temps d'une reprise économique. Nous avons supprimé des TVA et des taxes d'assises et créé des exceptions pour les secteurs les plus touchés, le tourisme, la restauration, les bars, les secteurs de la santé, le secteur médical.
En juillet 2020, au plus fort de la pandémie, la DIAN a procédé à l'évaluation Tadat menée par le Fonds monétaire international, avec la participation de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de développement et du Centre interaméricain des administrations fiscales. Qu'est-ce qui a motivé cette évaluation?
Je pense que la première chose qui est très importante à dire ici, c'est que le Tadat nous donne sans aucun doute quelques éléments d'évaluation. C'est un cliché instantané à un moment donné de l'histoire du pays. Bien sûr, là, nous évaluons 2019. Tout d'abord, je pense que le Tadat nous donne des outils pour voir si nous sommes dans la bonne direction au niveau du processus de transformation de l'entité. De plus, le processus de diagnostic nous aide à identifier certains domaines que nous avions en ligne de mire, certes, mais sans avoir tenu compte des meilleures pratiques mondiales. Il faut que la ligne de mire soit construite sur les meilleures pratiques, sachant que dans certains domaines, notre paradigme était de faire une certaine chose d'une certaine manière. Mais le Tadat nous a montré qu'on peut la faire d'une bien meilleure manière. Dans certaines circonstances, je pense que cela nous donne aussi un élément très important. Et évidemment, cela se passe très bien. Ce diagnostic arrive au bon moment, avant de commencer les grands investissements dans la modernisation technologique, parce que cela nous aide à avoir un point de départ que nous évaluerons ultérieurement, une fois que nous aurons effectué les investissements, et aussi à prendre en compte ces changements de processus dans tous les ajustements
que nous devons
faire précisément
pour le nouveau système. La Colombie a été le premier pays à passer l'évaluation 100% virtuelle.
Ces meilleures pratiques
internationales. Comment cela s'est-il passé ?
Évidemment, une évaluation 100% numérique, cela a représenté de très grands défis, tant pour le Fonds monétaire international que pour nous. Mais ça a des avantages en termes de disponibilité, de rapidité d'accès, d'être plus inclusif. Car comme je vous l'ai dit, il y a 113 bureaux en Colombie. Cela m'a même beaucoup aidé à avoir plus de réunions avec tous les secteurs, beaucoup plus souvent, parce que maintenant nous les avons virtuellement. C'est un avantage. Mais parfois, le contact humain, le partage d'expériences dans beaucoup de domaines, c'est ce qui aide à rendre le diagnostic un peu moins froid. Il y a donc des pour et des contre, mais je voudrais remercier tout particulièrement les animateurs, car en réalité, c'est un nouveau métier et ce n'est pas facile. Les animateurs se doivent de comprendre les personnes, de ressentir leurs émotions, savoir comment elles réagissent et être capables de faire avancer un processus de manière virtuelle, parce qu'il y a des avantages. Évidemment, on peut le faire beaucoup plus largement, être dans beaucoup plus de régions du pays, etc. Mais il y a aussi des difficultés, surtout pour les animateurs. Et je pense que cela représentait aussi un grand effort. Je pense qu'il est important de reconnaître les directeurs de gestion, les directeurs adjoints, car dès le début, nous nous sommes dit, écoutez, nous devons nous arrêter ici et comprendre que cette évaluation est une évaluation vraiment importante et que nous devons la prendre très au sérieux et que nous devons l'utiliser. Mais je pense que ce qui est important ici, c'est l'ouverture. L'ouverture des membres de l'équipe, ainsi que leur façon de voir les choses. Alors nous avons suivi la formation, puis nous avons avancé sur le processus. C'était très bien. Je pense que c'était très bien. Comme je l'ai dit, avoir ce point de départ pour éventuellement avoir une autre évaluation ou un suivi de ses observations pendant les 2 ans, c'est un outil très important pour s'assurer du succès d'un processus de transformation ou de modernisation. Donc, je pense que c'est arrivé au bon moment, juste au début du processus d'investissement majeur. Et bien évidemment, l'idée est de continuer à partir de là et de pouvoir suivre le dossier.
Nous remercions Monsieur le Directeur, José Andrés Romero, d'avoir accepté notre invitation et partagé avec notre public son expérience et ses réflexions sur l'outil TADAT. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous pour notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons vous retrouver pour notre prochain épisode.
Le podcast TADAT est disponible gratuitement. Les opinions exprimées dans le podcast TADAT sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles du FMI ou de sa politique. Le contenu du podcast peut être reproduit avec l'attribution appropriée. Les commentaires et la correspondance peuvent être envoyés par courrier électronique à podcast@tadat.org.
TADAT est un engagement collaboratif des partenaires suivants.
L'Union européenne, l'Allemagne, la France, le Fonds monétaire international, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni et la Banque mondiale.